Bonne matinée. Je vous invite à tourner avec moi dans Jonas, chapitre 4. Ceux qui ne sont pas familiers avec ce petit prophète, c'est à peu près au milieu de votre Bible. C'est un des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Donc, à peu près au milieu de votre Bible. Et ce matin, on termine le livre de Jonas. Je vous mentionne que la famille Etier tombe en vacances après la prédication ce matin, après le service ce matin. On tombe en vacances pour un mois. On est vraiment gâtés et c'est un temps très, très apprécié. Et donc, on va être à l'extérieur. En fait, on va être dans la région pour une semaine. Et puis ensuite de ça, on va aller donner un coup de pouce un petit peu à Hugo avec l'église de Rivière-du-Loup quelques jours. Puis priez pour mon frère et moi. On a, vous savez, dans le ministère pastoral, on a des opportunités particulières. Et Hugo et moi, on marie notre dernier pendant nos vacances. On marie mon père. Et oui, deux vieux mariés qui s'en vont marier le dernier. C'est ça que j'avais en tête. Alors, priez pour nous. C'est un contexte particulier. J'ai déjà partagé avec l'Assemblée. Mon père n'est pas de foi chrétienne et pas de foi. Ils nous ont demandé de les marier. Et évidemment, on approuve le fait qu'ils soient mariés, n'est-ce pas? Donc, on est content de ça. Et ils nous invitent à le faire selon toutes nos convictions. C'est moi qui vais apporter l'homélie, comme mon père m'a demandé. Et évidemment, cette homélie sera sur l'Évangile. Et on va donner quelques conseils de vieux mariés à ce jeune couple, après 20 ans de mariage bientôt. Définitivement, la grâce de l'Évangile va être au centre de ces conseils-là. Alors, priez pour nous, s'il vous plaît. Et puis, ensuite de ça, on va aller passer deux semaines à l'île aux coudres. Alors, si jamais vous passez dans le coin, vous êtes bienvenus. On va avoir un petit chalet là-bas. Vous pouvez venir nous visiter un instant. Non, non, OK. Vous venez pas nous voir. D'accord, c'est clair. Si vous passez, vous faites comme si on ne se voyait pas. C'est vraiment un beau coin. On est bénis d'aller là régulièrement. Alors, priez pour nous, s'il vous plaît. Priez pour la famille, priez pour les enfants, pour nous, que ce temps-là soit un temps où on va aller plonger ensemble dans la parole. On va pouvoir prendre du temps régulièrement avec le Seigneur, se retrouver. Des fois, dans l'année, ça va très, 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 très vite et on n'a pas toujours le temps nécessaire ou on ne prend pas toujours le temps nécessaire pour connecter avec le cœur de nos enfants, avec le cœur de mon épouse, et que ce soit un moment pour ça, d'accord? Priez pour l'Église cet été, s'il vous plaît. Priez pour toute l'Assemblée. On a besoin d'une fraîche révélation de la grâce de Dieu. L'Église a besoin de ça, j'en ai besoin, vous en avez besoin. Alors, priez pour l'Assemblée, s'il vous plaît. Et puis, on va se retrouver dans un mois. Vous allez être dans de bonnes mains. Monsieur Rowe, le père de Charity, va apporter une prédication dimanche prochain. Et puis, il va avoir John Francis qui va apporter une autre prédication. Alexandre, qui a célébré son premier mariage hier, va apporter deux des prédications aussi en mon absence. Et chaque dimanche, il y a des anciens qui vont être là, soit Michel, Robert, Alexandre, vont être présents à tour de rôle. Alors, j'aimerais qu'on puisse tout de suite aller dans la prière avant de lire ensemble Jonas. Père éternel, avant de penser à nous, Seigneur, je veux penser à la Norvège, Seigneur, avec ce drame qui m'a bouleversé hier. 92 personnes décédées aux mains de ce monstre qui, dans sa folie, a tué, a enlevé toutes ses vies, Seigneur. Et je veux te demander de venir étendre ta grâce, ta consolation, Seigneur, de réveiller le cœur des chrétiens qui sont là-bas afin qu'ils puissent accompagner, entourer, Seigneur. Toutes ces familles frappées ont sûrement quelques chrétiens autour d'eux. Et je te prie, Seigneur, de venir apporter ta divine consolation dans ces circonstances. Père, je veux te prier pour ce jeune homme qui a commis ces actes monstrueux, Seigneur. J'étais obligé de m'humilier devant le livre de Jonas et d'accepter, Seigneur, que cet homme n'est rien de plus qu'un Ninivite. Un pécheur, Seigneur. Et je te prie dans ta grâce, Seigneur, de sauver son âme. Sauve son âme, Seigneur, et pitié de lui. Quelle abomination, Seigneur. Je te prie d'avoir pitié de ce peuple qui est écrasé, Seigneur, par la monstruosité que l'homme est capable d'accomplir. On veut te prier, Père, pour la Somalie qui est frappée actuellement par cette sécheresse la pire dans les 20 dernières années en Afrique, à ce que je lis, Seigneur. Et ces gens ne peuvent que crier à toi et attendre le secours des hommes, Seigneur. Et je te prie, Père, de réveiller la conscience collective, de nous aider à envoyer de l'eau, de la nourriture le plus rapidement possible là-bas, Seigneur. Donne l'opportunité à des missionnaires encore d'exposer ton évangile, d'annoncer ta grâce, Seigneur, d'aider les gens à se tourner vers toi plutôt que vers quelques idoles, Seigneur. Mais qu'ils puissent se tourner vers toi à travers ces souffrances, Seigneur. Père, ta création souffre. Toute la terre souffre, Seigneur, du péché et de cette malédiction que tu as prononcée sur l'humanité. Et nous attendons ton retour, Seigneur Jésus. Nous attendons avec toute la création ton retour et cette libération, Seigneur, qui viendra, où le monde ne fonctionnera plus tout croche comme il le fait actuellement, Seigneur. Entre-temps, je veux te demander de nous donner ce matin une fraîche révélation de ta grâce à travers ce livre de Jonas, Seigneur. Nous sommes tous des religieux en puissance, Seigneur, parce que nous sommes dans une église ce matin. Nous sommes tous des religieux en puissance comme Jonas, Seigneur. Et nous avons besoin que tu viennes nous confondre avec la grâce de ton évangile, la grâce de ta compassion, Seigneur. Nous libérer de notre orgueil, nous libérer de nos prétentions, nous libérer, Seigneur, de notre amertume. Et de nous aider, Seigneur, tout simplement à s'abandonner entre tes mains, repentant, criant à toi, Seigneur, et reconnaissant, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Amen. Jonas, je vais vous lire ces 48 versets, d'accord? Encore une fois, simplement pour rentrer dans le texte comme il faut, ça se peut que vos dindes brûlent si la minuterie s'arrête à midi, ça se peut qu'on termine à midi 5. À 11h05, je m'excuse. 11h05, d'accord? Jonas 1:1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ô Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je sais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. » car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien, de mériter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a enseigné à prier. Dans la prière qu'il nous a enseigné, il dit, il nous enseigne à dire et à prier en disant, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Moi, je crois que Jonas n'aurait pas pu prier le Notre Père. Moi, je crois que cette prière-là était inaccessible à Jonas et qu'il n'aurait pas pu la prier. Lorsque Jésus nous a enseigné cette prière, au sens littéral, simplement, il est en train de dire, de la même manière que je pardonne quotidiennement aux personnes qui m'offensent, les gens autour de moi, lorsque je vois le mal dans le monde, lorsque le mal est fait envers moi dans le monde, bien Seigneur, tu vois mon cœur, je suis prompt à pardonner, je suis prompt à reconnaître qu'ils sont pécheurs. Si quelqu'un vient vers moi, me demande pardon rapidement, j'étends ma grâce, j'étends ta grâce et je pardonne, Seigneur. Alors de même, je te demande de faire la même chose pour moi, Seigneur. Je crois que Jonas n'aurait pas pu faire cette prière-là. Et si je veux jouer un petit peu plus avec les mots, Jésus aurait pu vouloir dire, bien dans votre prière, dites ceci, à la mesure où je suis prêt à pardonner, comme je suis prêt à pardonner, pardonne-moi. Si Dieu avait pardonné à Jonas, seulement à la mesure, à la hauteur du pardon qu'il était prêt à accorder, je ne donne pas cher de son éternité. Je ne donne pas cher de son éternité. Est-ce que vous êtes capable vraiment de faire cette prière? Sincèrement. Ou est-ce que vous êtes comme Jonas? Vous estimez que vous méritez la grâce de Dieu et que d'autres ne la méritent pas. Comme si on pouvait mériter la grâce de Dieu. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que c'est notre Créateur et il connaît nos combats, il connaît nos luttes, il connaît nos faiblesses. Et lorsque le Seigneur Jésus nous a enseigné à prier comme ça, il nous a montré le chemin, mais il sait qu'on est pécheurs. Il sait qu'à un moment ou un autre, de temps à autre, nous ne sommes pas capables de faire sincèrement cette prière. Parce que nous n'arrivons pas à pardonner. C'est absolument certain. Parce qu'on trouve en Jésus cette grâce constante. C'est absolument certain que Jésus savait que nous avons de la difficulté à faire cette prière par moment. Et voyez-vous, Dieu veut enseigner à Jonas. Dieu veut enseigner à Jonas, il veut le faire grandir, parce que cet homme spirituel et religieux devait grandir dans sa compréhension de la grâce. Je le dis depuis le début de la série, ce petit livre-là a été placé là avant que Jésus vienne, afin d'annoncer la grâce, afin de nous faire connaître ce cœur de grâce qu'on trouve en Dieu, et afin que nous qui vivons après la venue de Jésus-Christ puissions comprendre davantage l'Évangile, mieux l'Évangile. Ce livre-là a été placé là pour nous, afin que nous puissions comprendre ce que Christ est venu accomplir à la croix et comprendre le cœur de Dieu et comprendre ce qu'il veut former en nous comme cœur. Jonas ne comprenait pas la grâce et la compassion de Dieu. C'est très, très fort les versets 1 à 3, n'est-ce pas? Jonas 4, versets 1 à 3. « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. » Au niveau du langage hébreu, là, c'est le même mot que si Jonas avait vu un mal. C'est le même mot qu'on traduirait en anglais par « evil ». Et pour Jonas ce qui est en train de se produire là dans cette exemption de châtiment qui est accordée à Ninive aussi rapidement de la part de Dieu. Jonas y voit un mal qu'il aurait voulu contrer. Jonas aurait voulu éviter que Dieu se comporte ainsi parce que selon lui, Dieu ne devrait pas agir ainsi. Et lorsqu'on lit Jonas, notre réflexe à chacun d'entre nous, certainement, c'est de nous dire, mais qu'il est niochon, ce gars-là. Espèce d'hypocrite, de pharisien, de religieux. Les Écritures sont souvent des loupes extraordinaires qui mettent des choses dans une perspective qui font que dans une première lecture, on n'est pas capable de se reconnaître dans ces personnages-là. Moi, je vous dis que Jonas nous ressemble beaucoup plus qu'on est prêt à l'admettre. Je vais essayer de vous le démontrer ce matin. Maintenant, c'est fort ce que Jonas fait parce que, écoutez, après il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir, Seigneur. Je te connais. Je sais comme tu es bon. Mais pour moi, c'est un mal que tu allais faire et je voulais prévenir ce mal. » Je voulais prévenir que tu te comportes ainsi, Dieu. Je te connais, t'es trop bon. T'es un Dieu bonasse qui pardonne trop rapidement ces maudits qui méritent seulement de mourir, de périr. Hier matin, lorsque j'ai lu le journal, puis après ça, j'ai fait un peu de recherche sur les nouvelles pour voir ce que ce jeune homme-là a fait en Norvège. Bien honnêtement, Dieu m'a montré mon cœur. Je n'étais pas du tout intéressé à ce que Dieu sauve cet homme-là. J'étais prêt. Donnez-moi une arme, je m'en vais régler le problème. Vous n'aurez pas besoin de prendre du temps avec les tribunaux. Ça va se faire vite, ça va se faire proprement. Puis après ça, on va l'exposer au milieu de la ville. Il n'y avait pas de place dans mon cœur, a priori. Mais j'ai étudié Jonas toute la semaine. Jonas est en guerre avec Dieu parce que Jonas ne veut pas qu'il étende sa grâce. Jonas ne veut pas et n'accepte pas la grâce que Dieu veut étendre. Maintenant, je crois que ce qui rendait cela encore plus difficile à accepter pour Jonas, c'est que Dieu a demandé à Jonas d'être le messager de la grâce. Bien honnêtement, je pense que si Dieu avait dit à Jonas, alors que Jonas était en Israël en train de prendre son petit café le matin, puis de lire son journal, et puis qu'il aurait lu dans le journal que Ninive a été menacée, mais que Dieu a fait grâce, je pense qu'il y aurait eu un combat intellectuel en lui-même. Il y aurait eu un débat existentiel dans son cœur, puis il aurait dit Dieu, décidément, je te comprends pas. Vous auriez dû les détruire, ces chiens-là. Mais je pense qu'il aurait pu faire sa journée. Et il n'aurait pas pensé à mourir. Le problème, c'est que Dieu lui a demandé d'être le messager de cette grâce-là. Dieu lui a dit, c'est toi qui vas être l'agent par lequel je vais conduire toute cette ville-là à la repentance. C'est toi qui vas être le messager par lequel je vais sauver tous ces gens-là du châtiment. Et voyez-vous, chaque fois que Dieu nous demande à nous d'aller annoncer la grâce à quelqu'un qui a péché contre nous, d'aller annoncer la grâce à quelqu'un que nous estimons tellement plus méchant que nous, c'est là que les conflits intérieurs se présentent. C'est là que nous entrons en conflit avec Dieu. Dieu peut bien faire grâce à qui il veut. Du moment que ce n'est pas moi qui ai à annoncer cette grâce-là et que ce n'est pas moi qui ai à incarner la compassion de Dieu devant ces gens-là. Il peut bien leur faire grâce, il m'a fait grâce, ça va. Non, c'est toi, Yannick. C'est toi qui vas aller dire, au nom de Dieu, je t'aime. Je te pardonne. Veux-tu qu'on renoue une amitié ensemble? Je t'aime. Je te pardonne. Veux-tu qu'on aille prendre un café ensemble? Je t'aime, je te pardonne. Veux-tu qu'on serve ensemble dans un ministère? Je t'aime, je te pardonne. Veux-tu qu'on continue à marcher ensemble? Parce que Dieu t'aime et moi je suis son messager. Voyez-vous, on n'est pas si loin que ça de Jonas. On n'est pas si loin que ça de Jonas. Et chaque fois que Dieu place sur notre chemin une situation où nous devrions être ce messager de la grâce de Dieu dans une relation envers des gens et que nous fuyons ces relations, nous nous comportons exactement comme Jonas. Nous nous comportons exactement comme Jonas. Je n'ai pas de problème à ce que Dieu fasse grâce. Il enverra qui il veut à part moi. Je n'ai pas de problème à ce que Dieu te pardonne du moment que tes péchés n'aient pas de conséquences dans ma vie à moi. Jonas ne comprenait pas la grâce et la compassion de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce envers nous, et Dieu, dans sa grâce envers Jonas, a décidé que ça allait être des êtres humains qui allaient être les messagers de la grâce, les messagers de la compassion de Dieu. Vous comprenez que Dieu aurait pu décider de le faire autrement? Si Dieu s'est incarné dans la personne de Dieu le Fils, sur la terre, si des anges sont venus à quelques moments dans l'histoire de l'humanité, je veux dire, Dieu pourrait toujours le faire comme ça, ça pourrait toujours se passer par une manifestation surnaturelle. Et on s'est tous dit à un moment ou à un autre que ce serait beaucoup plus efficace. Mais le miracle que Dieu veut manifester pour faire connaître sa grâce aux hommes, c'est le miracle qu'il a fait premièrement dans votre cœur pour que vous apportiez ce message de grâce, que vous soyez en train d'apporter la grâce à cette personne-là, c'est déjà un miracle en soi. Et si la personne vous connaît personnellement, et si la personne vous a offensé personnellement, que vous apportiez un message de grâce à cette personne-là, c'est un miracle encore plus grand. Parce que vous êtes aussi tordu et aussi pécheur, aussi peu prompt à aimer. Mais si Dieu peut réussir à faire entrer dans vos cœurs sa grâce, pour que sa grâce vienne transformer votre perspective, et nourrir en vous une compassion et un amour digne de Dieu pour aller vers cette personne que naturellement vous n'aimeriez pas. Dieu a déjà fait un miracle extraordinaire et le message va être d'autant plus puissant. C'est comme ça que Dieu a décidé de travailler à travers toute l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Jonas, c'est toi qui vas y aller. Tout le monde sait que tu les haïs, ces gens-là. Tout le monde sait que tu les méprises. C'est toi qui vas apporter la grâce dans cette ville-là, Jonas. Parce que j'ai quelque chose à enseigner à Ninive, parce que j'ai quelque chose à t'enseigner à toi. Une des choses qui est extraordinaire dans ce livre-là et qui m'a fait tellement de bien à travers toute la lecture, la méditation, l'étude du livre, c'est à quel point Dieu est gracieux envers Jonas. Dieu poursuit Jonas avec une tendresse, une douceur digne de Dieu. Regardez comment Dieu s'adresse à Jonas dans le chapitre 4. Je vous l'ai dit, je vous répète, moi personnellement, c'est clair. Je laisse Jonas sauter à l'eau, je le laisse compléter son suicide et j'envoie certains des marins qui ont compris et pour qui la grâce de Dieu est évidente actuellement dans leur vie, et c'est eux autres qui s'en vont à Ninive. Dieu n'a pas voulu me consulter. Mais regardez comment Dieu traite avec Jonas ici. Je veux dire, juste la question qu'il pose. L'Éternel, au verset 4, dit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Moi, personnellement, c'est la foudre qui descend du ciel qui règle cette question-là. Mais Dieu veut instruire Jonas. Jonas sait que le peuple d'Israël a été choisi par grâce. Du moins, il le savait. Jean-Sébastien nous l'a rappelé très bien avec ce passage dans Deutéronome tout à l'heure. C'est très, très clair que ce peuple-là a été choisi par grâce. Mais voyez-vous, nous sommes des êtres tordus, et prompt à retomber dans la religiosité. Nous sommes prompts à redevenir religieux. Qu'est-ce que je veux dire lorsque je veux dire religieux? Nous sommes prompts à penser que nous méritons cette grâce de Dieu. Et Dieu poursuit avec une tendresse extraordinaire Jonas pour lui dire, « Jonas, tu penses que tu as compris ma compassion et la grâce, mais tu es pris avec tes propres idoles. Tu regardes aux Ninivites, tu te dis, « Eux autres, ce sont des idolâtres, des chiens. » Mais tu es un idolâtre, Jonas. Tu t'es fait un Dieu à ta mesure. Tu voudrais que Dieu ne soit pas rempli de compassion et de grâce. Tu voudrais que Dieu ne soit pas prompt à pardonner le cœur repentant. Non, tu t'es taillé toi-même ton propre Dieu. Tu es un idolâtre qui a une idole dans ton cœur, un Dieu fait à ta mesure, Jonas. Et j'ai besoin de venir fracasser cette idole dans ton cœur. Et je t'aime et je vais te poursuivre avec une tendresse paternelle. C'est ce que Dieu fait à deux reprises. Il lui dit, Jonas, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Est-ce que tu ne vois pas ta folie, ta stupidité, ta bêtise? Est-ce que tu ne vois pas que tu es pécheur, toi aussi? Lorsque je lisais ça, le passage qui me venait à l'esprit, c'est lorsque Jésus est sur la croix. Et Jésus prie et dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Voyez-vous, Dieu ne change pas. C'est cette même tendresse de Dieu qui connaît nos cœurs. Oui, nous croyons en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Nous savons une première fois que nous sommes pécheurs. Nous tombons à genoux devant Dieu et nous disons, « Seigneur, je suis pécheur, je suis damné. Sans ton sacrifice à la croix, il n'y en a pas de pardon pour moi. » Mais le deuxième pas que nous faisons, c'est, « Seigneur, maintenant je suis un homme saint et je ne suis plus comme le reste des hommes. » Mais chaque jour où nous avançons dans la foi, chaque jour où nous avançons dans la foi, nous avons besoin d'une fraîche révélation de la grâce de Dieu. C'est seulement dans la mesure où cette grâce-là est bien présente dans notre cœur, dans notre esprit, que nous avançons libres. Libre de toute religiosité, libre du péché, d'être, de se voir supérieur aux autres, confiant dans cette intimité avec Dieu, dans cette proximité avec Dieu. Chaque jour où nous avançons, nous avons besoin d'une fraîche révélation de la grâce de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire ici avec Jonas. Regardez ce que Dieu fait au verset 6. Verset 5, pour commencer, « Jonas sortit de la ville, s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait à la ville. » Peut-être que Dieu va revenir à son bon sens. On attend pour voir la fin du show. Verset 6, « L'Éternel Dieu fit croître un ricin, une plante. » Honnêtement, on ne sait pas c'est quoi cette plante-là. Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Dieu veut aider Jonas à arrêter de pécher. Dieu veut apaiser Jonas dans sa colère, comme un David qui serait envoyé auprès de Saül pour jouer de la harpe et l'apaiser dans sa stupidité, dans sa folie. Mais quelle grâce! Quelle bénédiction! Dieu connaît nos cœurs. Et il sait que c'est tellement difficile pour nous de saisir la grâce. Et Dieu veut donner un répit à cet homme religieux et hypocrite. Et il fait croître cette plante pour apaiser son cœur. Mais Jonas est incapable de recevoir cette grâce de Dieu. Ce qu'il reçoit, c'est un dû. Ah, voilà le Dieu qui a élu le peuple d'Israël. Voilà le Dieu qui me sort du poisson quand je suis mal pris. Voilà le Dieu qui prend soin du juif juste qui attend. Ce Dieu-là a encore un peu de bon sens, puisqu'il sait prendre soin d'un juif, d'un religieux. Un homme spirituel comme moi. incapable de recevoir la grâce que Dieu voulait lui donner, il voit ça comme un dû. Et lorsque Dieu le retire, son cœur retombe dans l'irritation. Le cœur de Jonas ne recevra jamais, à ce moment-là dans sa vie, cette grâce que Dieu voulait lui donner à nouveau à travers cette plante. Et il va l'interpréter comme un dû. Ce que je veux vous montrer à travers ça, c'est que Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs et il est un bon Père qui nous châtie parfois, mais qui le fait toujours dans l'objectif de nous aider à saisir sa grâce davantage. Il veut que nous comprenions l'œuvre que Christ a accomplie à la croix et le cœur qui est derrière ça, combien il nous aime, combien il a compassion de nous. Dieu poursuit Jonas pour l'aider à avoir une fraîche révélation de sa grâce. Et Dieu vous poursuit actuellement. Je ne sais pas quelles sont les circonstances, mais Dieu me poursuit et vous poursuit actuellement pour vous donner toujours une plus grande compréhension de sa grâce. Ça se peut qu'il le fasse à travers des bénédictions qu'il apporte dans votre vie. Des bénédictions physiques et matérielles comme cet arbre. Je peux vous garantir que si vous aviez été là, un ricin, un ventilateur ou une aire climatisée, n'importe laquelle, ça aurait été une bénédiction, je peux vous le dire. Concrète et visible. Alors peut-être que le Seigneur l'a fait cette semaine en vous donnant l'air climatisé. C'était une grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous méritiez. Vous ne l'avez pas acquis à la force de vos mains. Ne le croyez pas, parce que la santé avec laquelle vous l'avez acquis, c'est encore une grâce de Dieu envers vous. Non, ce que vous méritez comme moi, c'est la damnation éternelle. Ce que vous méritez comme moi, c'est d'être frappé par Dieu. Ce que vous méritez comme moi, c'est ce que tous les pécheurs méritent. Mais Dieu est en train de vous poursuivre à travers des relations, à travers des bénédictions, à travers des châtiments, à travers des corrections, à travers des instructions dans sa parole, pour vous amener, pour m'amener moi dans une nouvelle appréciation, compréhension de sa grâce, parce qu'il veut nous libérer de ces idoles qui sont en nous, qui nous amènent à nous voir comme des êtres supérieurs et qui nous empêchent, qui nous enchaînent et nous empêchent d'aimer vraiment, d'étendre la grâce de Dieu aux autres autour de nous. La dernière chose que je désire relever dans le livre de Jonas, et je vous avoue, je termine la série, puis je ne vous dis pas que j'en ferai pas une autre sur Jonas dans quelques années. Tim Keller, un prédicateur que j'apprécie énormément à l'église Redeemer Presbyterian Church, a fait 3 séries sur le livre de Jonas en 20 ans de ministère là-bas. Et il y aurait encore beaucoup à dire sur les ramifications de la grâce dans le livre de Jonas. Mais la dernière chose que je voudrais attirer votre attention, c'est qu'aux yeux de Dieu, tous les hommes sont à la fois rebelles et ignorants. Et vous ne pourrez pas grandir dans votre appréciation de la grâce de Dieu, dans votre compréhension de la grâce de Dieu, si ces deux dimensions-là du péché ne sont pas présentes à votre esprit. Dieu voit tous les hommes sur la terre comme des êtres rebelles, profondément méchants dans le cœur et à la fois ignorants, stupides et bêtes. C'est beau, hein? Aussi comme des créatures de Dieu, effectivement, faites à l'image de Dieu qu'il veut racheter. Mais lorsqu'on parle du péché, il y a 2 dimensions à ce que Dieu voit en nous. Il nous voit effectivement comme des gens rebelles et pécheurs, mais il nous voit non seulement comme des criminels, mais aussi comme les premières victimes de nos péchés. Et ça, c'est vraiment important à saisir. Ça ressort à plusieurs reprises dans les Écritures. Regardez le commentaire de Dieu sur les gens de Ninive au verset 11. Dieu dit à Jonas, « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. » Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Et on est tous rapides, les évangéliques, particulièrement dans une assemblée très attachée aux Écritures. On sait ça, Dieu n'est pas un Dieu bonbon, ça a pris le sacrifice de Christ pour le pardon des péchés. Le péché, c'est suffisant pour aller en enfer, ça nous conduit droit là. Dieu n'est pas un Dieu bonbon, Dieu va juger les hommes. Amen! J'espère qu'il va juger les hommes. Parce que moi, je lis le journal puis j'attends son jugement. Dieu va juger les hommes. Et c'est présent dans le livre de Jonas. Rappelez-vous pourquoi Jonas est allé à Ninive. Après tout, le message était simple. Vous êtes des monstres, vous êtes des pécheurs, et j'en ai jusque-là de votre méchanceté. 40 jours, vous êtes détruits. Je suis un Dieu juste et saint, et le péché va être châtié. Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Mais en même temps, quand Dieu dépose son regard sur l'humanité, il voit tous les hommes comme des êtres méchants et rebelles, et donc des criminels en puissance qui font du mal autour d'eux, mais en même temps des gens aveuglés par le péché. Le péché a une puissance d'aveuglement qui nous rend stupides et bêtes. Et Dieu est conscient de ça. Lorsque Dieu dépose son regard sur la terre, il dit « Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils sont méchants, ils seront jugés, et si ce n'est pour la grâce que je leur offre, ils seront châtiés éternellement. Mais en même temps, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est comme ça que Dieu regardait les gens de Ninive. Il les regardait comme des gens odieux, qui dans le fond de leur cœur savaient quand même qu'ils étaient des pécheurs. Le roi, très rapidement, lorsqu'il s'est repenti, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne connaissait pas grand-chose quand même. Il connaissait le nom de l'Éternel, mais il connaissait peu de choses. Et pourtant, il dit que chacun se détourne de ses mauvaises voies, des mauvaises actions, des actions de violence qu'ils ont posées. Dans le fond, dans leur conscience, ils savaient qu'ils faisaient le mal. Lorsque Dieu regarde l'humanité, lorsqu'il regarde chacun d'entre nous, les gens à l'extérieur, partout, il voit des êtres profondément rebelles, criminels dans l'âme. Mais en même temps, il nous voit comme les premières victimes du péché, de nos péchés à chacun d'entre nous. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Vraiment, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Moi, je lis dans les évangiles, puis ils savaient qu'ils étaient en train de condamner un juste. Oui, mais ils sont vraiment épais. Et ils ne réalisent pas à quel point ils sont méchants et à quel point ils sont épais. Et c'est le regard que Dieu pose sur toute l'humanité. C'est le regard que Dieu pose sur Jonas. Est-ce que vraiment Jonas pouvait distinguer sa droite de sa gauche? Est-ce que vraiment Jonas était capable de distinguer le péché dans son cœur et la compassion de Dieu? Jonas, en fin de compte, c'est le plus hypocrite de toute la gang. C'est celui qui mérite le moins la grâce de Dieu parce qu'il la connaît, il l'a entendue, il l'a reçue, et il persiste à être méchant et orgueilleux et prétentieux, sans compassion. Mais par la manière dont Dieu parle à Jonas, on voit que Dieu regarde Jonas comme les Ninivites, comme des gens qui ne sont pas capables de discerner leur droite de leur gauche. Et c'est comme ça que Dieu nous regarde chacun d'entre nous. Et tant et aussi longtemps qu'on ne saisira pas cela, nous ne saisirons pas sérieusement la grâce de Dieu. Nous ne saisirons pas sérieusement la grâce de Dieu. Voyez-vous, Jonas, en d'autres mots, est en train de dire, « Seigneur, je te rends grâce pour la grâce que tu m'as manifestée parce que je suis un pécheur. » Mais eux, ces Ninivites, idolâtres, ils ne méritent pas ta grâce. Qui mérite la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui mérite la grâce de Dieu? Lève-toi si tu mérites la grâce de Dieu. Personne ici mérite la grâce de Dieu. C'est impossible de mériter une grâce. C'est impossible. La grâce est un don que Dieu fait à quelqu'un qui ne mériterait pas son amour et sa bonté. Et Jonas le reconnaît pour lui-même, mais il n'est pas prêt à regarder les gens autour de lui avec ce même regard de compassion. Voyez-vous, Dieu voulait enseigner à Jonas qu'il devait grandir dans son appréciation de la grâce. Dieu voulait l'enseigner aux Ninivites et il envoyait Jonas là-bas. Mais Dieu voulait l'enseigner à Jonas et il a envoyé Jonas auprès des Ninivites. Dieu voulait l'enseigner à Jonas et il l'a sauvé plutôt que le laisser périr lorsqu'il a été jeté à l'eau. Dieu voulait l'enseigner à Jonas et lui envoyer un ricin plutôt que de le frapper et de le détruire comme il le méritait. Dieu veut nous enseigner davantage sa grâce. Et Dieu veut le faire avec vous. Alors, je ne sais pas qui ou quoi dans votre vie représente Ninive dans votre vie actuellement. Je ne sais pas auprès de qui ou dans quelle situation un chrétien, un non-chrétien, une population en général, auprès de qui Dieu veut vous envoyer pour que vous soyez un messager de cette grâce-là et dire « Tu es pécheur, mais Dieu t'aime. Tu es pécheur et je t'aime. Je t'appelle à la repentance. Je déclare les choses comme elles sont. Mais je te dis tout de suite, Dieu va être prompt à t'aimer, te pardonner dès que tu vas te repentir. Je suis là pour t'aimer en son nom. Je suis là pour être les yeux et les mains de Jésus, comme on dit souvent. Je ne sais pas qui est Ninive dans ta vie. Quand quelqu'un fuit une église, parce que cette église devient impossible à aimer, elle fuit Ninive. Où Dieu l'a envoyé pour apporter un message de grâce et de compassion. Quand quelqu'un fuit une relation, elle fuit Ninive, où Dieu l'a envoyé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas reprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas confronter avec le péché. Dieu a châtié Jonas à plusieurs reprises. Vous essayerez le poisson pendant 3 jours. Vous essayerez ça. Moyen châtiment. Vous n'en avez pas eu des comme ça, je vous l'assure. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas confronter le péché. Mais nous serons des messagers de la grâce. Tournez avec moi dans Éphésiens et on va terminer sur ce passage. Éphésiens 2. J'aimerais m'adresser aux chrétiens seulement avant de lire le passage. À travers le livre de Jonas, Dieu veut nous aider à saisir la dynamique du péché dans nos vies à nous premièrement, puis dans le monde en général. Ce péché-là a une double dynamique. C'est le fruit de cœurs méchants, c'est le fruit de cœurs ignorants. Et c'est simplement dans la mesure où nous allons grandir, garder à l'esprit à tous les jours, que c'est seulement en vertu de la grâce de Dieu que nous avons pu répondre à l'appel de Dieu. C'est seulement en vertu de la grâce de Dieu que je peux dire aujourd'hui « Je suis un enfant de Dieu ». Et c'est seulement en vertu de la grâce de Dieu que je marche un peu plus dans la sainteté qu'avant de connaître Christ. C'est seulement dans la mesure où je vais saisir ces choses-là que je vais pouvoir entrer dans la mission que Dieu m'appelle à entrer. Éphésiens 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il parle de tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Il parle des Ninivites. Il parle de nos voisins. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, attendant le châtiment de Dieu comme les gens de Ninive. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Grandir dans la grâce, c'est être plus libre et plus près de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux t'adorer ce matin. Je désire bénir ton nom parce que tu es un sauveur merveilleux. Seigneur, tu as déposé sur nous un regard de compassion et un jugement, Seigneur. Tu as jugé parmi nous, tu as jugé dans nos cœurs le mal, le péché, Seigneur. Et tu as dit, ils ne vivront pas éternellement ainsi. Je les jugerai et seuls ceux qui se repentiront seront graciés. Mais Seigneur, tu as offert ta grâce. Seigneur, tu as fait grâce. Seigneur, tu m'as fait grâce et tu as payé le prix de mes péchés en venant mourir sur cette croix, Seigneur. Père, je te prie de tout mon cœur ce matin. Parce que sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, je ne peux pas moi-même grandir dans la grâce sans l'œuvre de ton esprit dans mon cœur. Et je ne peux pas, Seigneur, aider cette Église à grandir dans la grâce sans une œuvre de ton esprit dans le cœur de toute cette assemblée, Seigneur. Et aucune personne ici ce matin qui serait encore fils ou fille de la rébellion, étranger à l'Évangile de Jésus-Christ, ne peut être sauvé sans une œuvre de ton esprit dans son cœur pour lui donner une révélation entière de l'Évangile et de cette grâce qui lui est offerte, Seigneur. Aucun d'entre nous ne se repentira, Seigneur, et ne rendra grâce, ne te remerciera pour ton pardon en Jésus-Christ, si ce n'est par l'œuvre de ton esprit au milieu de nous. Seigneur, je te demande, je te supplie de faire au milieu de nous une œuvre nouvelle, Seigneur. Apporte-nous une fraîche révélation de ta grâce. Fais-nous grandir en Jésus-Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, Seigneur. Des enfants dans la foi, mais que nous soyons des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ, animés quotidiennement par cette appréciation de ton amour pour nous, Seigneur, fortifiés quotidiennement par cette conviction que tu veux te servir de nous parce que tu te sers de nous par grâce, et appliqués, Seigneur, quotidiennement dans cette mission d'aller apporter ce message de grâce dans nos familles, autour de nous, dans l'Église et auprès de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. C'est en Jésus-Christ que je te le demande, Seigneur. Amen.